je le dis parce que tout le monde n'est pas là à chaque séance. On n'est pas, c'est pas une série télé. On n'est pas obligé de voir tous les épisodes. Hein, donc, il faut à chaque fois, malgré tout, faire une petite remise en perspective de ces cycles intitulés « Connaissance de l'histoire sociale ». Donc, l'idée étant de traverser les époques avec une problématique qui soit un petit peu continue et qui est celle, au fond, de ce qu'on appelle la reformulation de la question sociale au fil des différentes époques qu'on a traversées. Alors, on a commencé il y a un an maintenant, par l'Ancien Régime même, puis la Révolution, puis le XIXe siècle, toute une partie d'histoire sociale qui est en général assez méconnue, ce qui a d'ailleurs fondé l'idée de faire ce cycle. Hein. C'est un siècle qui est peu connu parce que on en parle peu dans le système scolaire, et voire même universitaire d'ailleurs. Et donc on continue ce parcours. On a fait quelques séances donc sur l'émergence de la question sociale au tournant du 19e, du 20e siècle. Puis on a vu ce que donnait l'entre-deux-guerres. Et l'avant-dernière fois, on avait fait une séquence temporelle assez brève qui était entre le Front populaire et le régime de Vichy. Hein, une période courte, mais qui, d'une certaine manière, passe d'un moment d'apogée de la question sociale qui était juin 36, mais juin 36 au moment de l'éviction de la question sociale, puisque la charte du travail et le régime de Vichy étaient très éloignés de ce genre de problématiques. Donc aujourd'hui, on va repartir, continuer notre séquence temporelle par l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale, qui est un moment qui n'est pas tout à fait anodin, bien sûr, dans l'histoire sociale de notre pays. Et puis, je m'arrêterai, bon, c'était un peu arbitraire, mais je m'arrête vers 68. En toute logique, la période qui part de 1945-46, bon, c'est une séquence qui va en gros jusqu'au milieu des années 70. C'est ce qu'on a appelé, je vais y revenir, ce qu'on a appelé la période des Trente Glorieuses, qui est marquée par un régime de croissance de l'économie, une lutte pour la redistribution des revenus, des gains de productivité, etc. Et en général, les économistes ou même les sociologues, il est logique de discerner un tournant vers le milieu des années 70. Mais enfin, je trouvais que passer par-dessus mai 68 comme ça était un peu dommage, que 68 est quand même un moment significatif de notre histoire sociale, de même que j'avais insisté sur juin 36, sur le Front populaire et le mouvement social auquel il a donné lieu. De même, il faudra s'arrêter un peu sur 68, peut-être la prochaine fois, peut-être une fois suivante, en demandant à un intervenant autre que moi de venir là-dessus, parce que je pense qu'il est agréable aussi, vous l'avez vu pour ceux qui étaient là la dernière fois, de changer un peu d'intervenant, puisque la dernière séance, on l'avait fait sur l'histoire de la sécurité sociale, en réalité un peu plus que ça, puisque Bernard Friot nous avait fait plutôt un grand récit, enfin politique, hein, du sens de la sécurité sociale. Alors donc, cette période contemporaine, et puis essayer de l'attraper avec notre problématique qui est la dynamique de la question sociale, qui connaît effectivement à cette époque une reformulation assez globale. D'une certaine manière, elle est l'aboutissement de nombre de sujets qui avaient été esquissés, traités dans les années antérieures, depuis le début du siècle pratiquement. Je vais faire quelques rappels là-dessus. Et bon, en se resituant dans l'atmosphère qui est celle de la France de 40-45, bon, un pays qui entre en guerre alors que c'est encore un pays largement rural, avec une industrie dynamique, mais qui connaîtra des progrès encore plus forts dans l'après-guerre. Et on a une entreprise de reconstruction, puisque le pays est dévasté. Il est dévasté depuis le début de la guerre, enfin depuis les premiers bombardements alliés, et ça a duré à peu près toute la guerre. Hein, je rajoute d'ailleurs qu'une précision qu'on saisit souvent assez mal, mais l'appareil économique de la France est beaucoup plus ravagé que celui de l'Allemagne en 1945. Hein, on sait que d'abord parce que la guerre n'a pas eu lieu, sauf à la fin, sur le territoire du Troisième Reich, mais à l'extérieur, puisque les Allemands avaient porté la guerre à l'extérieur de leurs frontières, et même tenant compte des bombardements alliés qui ont eu lieu dans les derniers moments de la guerre, dans les dernières semaines au printemps 45, ils ont visé les villes, ils ont rasé des villes comme Hambourg, Dresde et Berlin. Ça visait à impressionner et punir d'une certaine manière le peuple allemand de son soutien au Troisième Reich, mais globalement, l'appareil industriel a été à peu près épargné. On a bombardé ce qui traînait dans ces villes, mais dans la Ruhr ou dans les grands sites industriels ont été épargnés des bombardements, ce qui fait que même si L'Allemagne a eu, elle aussi, sa période de reconstruction. La France l'a abordée avec un handicap supplémentaire, ce qui, d'ailleurs, ne cessait pas d'entretenir une certaine amertume vis-à-vis de l'Allemagne, qui a perduré assez longtemps, comme chacun sait, dans la conscience collective des Français. Mais l'œuvre à me remettre en selle en 1945 est évidemment une œuvre considérable. Cette œuvre sera accomplie par l'apogée de l'État keynésien, qui a été légitimé pendant la guerre par ce qu'on a appelé le programme du Conseil national de la résistance, adopté en mars 1944, qui a défini dans ses grandes lignes la politique qui devait être conduite après la libération du territoire. Alors, avant d'en venir à ce programme, qui a son importance, pas seulement symbolique, il faut revenir à cette problématique là que j'ai évoquée, qui, je l'ai souvent dit, emprunte beaucoup à Robert Castel, qui est le fameux livre que j'évoque souvent, auquel je vous renvoie, qui est la chronique du salariat, les métamorphoses de la question sociale, qui est paru il y a une douzaine d'années, de Henri Hatzfeld aussi, qui a écrit des choses fort pertinentes sur la sécurité sociale. Pour ceux qui étaient là, la dernière fois, vous avez pu voir que Friot s'est également référé à ces deux auteurs au service d'un point de vue qui est résolument le sien. Mais évidemment, on travaille toujours dans le sillage d'auteurs qui ont apporté à la connaissance de ces problématiques-là. Alors, je ferai trois rappels pour nous remettre un peu dans le circuit. Après, j'essaierai de baliser rapidement les grands moments politiques, sociaux de cette période. Et puis après, je reviendrai sur son sens par rapport à notre problématique générale, c'est-à-dire ce que j'avais appelé dans le titre « l'avènement de la société salariale ». Alors, les trois rappels, donc, c'est pour nous remettre en perspective depuis le début du XXe siècle, puisque c'est là, avec les premières lois sociales qui ont été élaborées en France, j'ai souvent dit que la France n'a pas été très en avance sur ses voisins en matière de lois sociales, puisque lorsque commence en France un programme législatif sous la conduite d'Alexandre Millerand, qui est un ministre socialiste rallié à la participation dans des gouvernements radicaux à la fin du XIXe siècle, l'Allemagne, l'Angleterre ont déjà, dans certains domaines, adopté des législations sociales. L'Allemagne, très avancée, dès l'époque de Bismarck, et l'Angleterre, à peu près dans ces années-là, avec un système d'indemnisation du chômage, etc., alors que la France est évidemment encore bien loin de tout cela. Et j'ai toujours souligné que, en France, la classe ouvrière, les travailleurs, ont acquis très tôt des droits politiques à travers le suffrage universel, entre guillemets, c'est-à-dire masculin, en 1848, mais des droits sociaux venus très tard, là où, à l'inverse, dans les pays voisins comparables, comme l'Angleterre et l'Allemagne, il avait fallu des luttes tout au long du XIXe siècle pour que le droit de citoyenneté, le droit de vote, soit acquis, pareil en Allemagne, alors que des droits sociaux avaient été obtenus, eux, au contraire, beaucoup plus tôt qu'en France. Alors, donc, début du XXe siècle, les premières lois Millerand, qui avaient beaucoup de faiblesses, la première étant qu'elles étaient peu appliquées, mais en tout cas, elles ont créé un nouvel espace de définition du rôle de l'État et de la législation en matière sociale. On a à cette époque-là encore une domination d'un Sénat libéral, et les idées libérales sont les plus répandues dans les élites politiques. On peut dire rétrospectivement que c'est à cette époque-là qu'est né ce qu'on peut appeler les prodromes d'un espace public social, ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant l'ordre public social, c'est-à-dire un ensemble de dispositions légales de protection des travailleurs. En 1919, j'avais évoqué cette première loi d'instauration des conventions collectives, là aussi tardive par rapport à nos voisins européens, qui ont permis d'intégrer dans des accords sociaux, en tout cas qui devaient le faire, justement ces règles collectives. On est passé à cette époque de la notion d'accord collectif, qui est une négociation directe entre représentants des salariés et représentants des employeurs, ou les employeurs directement, parce que à cette époque-là, c'est souvent comme ça que ça se faisait. Cet accord collectif, qui est un accord en lien direct, la convention collective permettait d'inclure dans cette relation salariale les dispositions législatives, les dispositions d'intérêt général qui venaient de ces fameuses lois Millerand. C'est un moment clé où commence à se nouer une conception un peu moderne de la relation sociale, mais qui n'obtiendra son plein droit de cité que dans la période que nous allons voir aujourd'hui. De même, au tournant du siècle, autre innovation majeure, les progrès des techniques assurantielles qui permettent techniquement de couvrir à peu près tous les risques sociaux à partir d'un calcul de risque au moyen de cotisations. On peut pratiquement garantir tous les risques à une seule condition, c'est que la cotisation soit obligatoire. C'est le principe de base du mutualisme ou du système visant à mutualiser les risques. Ça fonctionne, on peut à peu près se couvrir de tous les risques sociaux à condition d'avoir affecté à ce risque une cotisation spécifique ou générale qui permet d'organiser des péréquations, mais la condition c'est qu'elle soit obligatoire. Et là on a un débat fondamental sur l'obligation de la cotisation, évidemment avec ce que Hatzfeld appelle l'objection libérale à l'obligation, mais cette réticence à l'obligation n'était pas uniquement le fait des milieux libéraux. Il y avait des réticences ouvrières assez fortes, y compris dans la CGT de l'époque, qui, comme vous le savez, était de tendance un peu syndicaliste révolutionnaire, et il y avait une objection de principe à voir empiéter sur le salaire, une obligation qui viendrait de l'État, objection qui existait aussi dans la gauche parlementaire. Jaurès lui-même était assez hésitant sur la question de la cotisation obligatoire. Il en comprendra tout l'intérêt après l'adoption de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes en 1910, les fameuses ROP que la CGT avait rebaptisées la retraite pour les morts, parce qu'elle prévoyait une prestation de retraite après 65 ans, alors que l'espérance de vie de la population ne dépassait guère les 50 ans à l'époque. Troisième rappel de cette époque, donc début du XXe siècle, période charnière, l'émergence de notions de ce qu'on appelle la propriété sociale. J'ai évoqué déjà les juristes, et notamment Léon Duguy, qui à l'époque établit une véritable doctrine. Il fonde en doctrine la notion de service public. Les biens sociaux communicables à tous, etc., qui ont marqué le débat à cette époque, qui était pour lui le fondement de l'obligation faite à la société d'apporter aide et protection à ses membres. C'est la dette sacrée de la nation à l'égard des nécessiteux, telle que la Révolution française l'avait déjà posée. Alors, il citait d'ailleurs, je vous le dis, un peu de poésie dans nos propos, sont pas un vers de Victor Hugo qui restitue le sens profond du service public, qui dit « Chacun en a sa part, mais tous l'ont en entier », qui est une belle formule résumant le sens qu'a pour chacun et pour tous la notion de service public. Alors, à travers ces trois aspects, on a des innovations considérables, qui sont d'abord conceptuelles à cette époque-là, bien plus que entrer dans la réalité. Elles contribuent à un changement de paradigme de la notion de propriété. C'est-à-dire que jusqu'au XXe siècle, je l'ai déjà évoqué, la propriété patrimoniale était le fondement de la sécurité des individus dans la société. On pouvait se projeter dans l'avenir, dans la vieillesse, dans la maladie, dans l'accident, qu'à partir du moment où on était détenteur d'une rente ou d'une propriété. Charles Gide, un économiste qui a assuré la promotion du principe coopératif en France, disait que la question sociale s'était jusqu'alors toujours instituée dans l'espace d'un manque, et ce manque était celui du manque de propriété. Or, avec ces trois éléments que j'ai évoqués, le droit du travail, la sécurité sociale, les services publics, s'établit une nouvelle forme de propriété, ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on a appelé à l'époque, la propriété sociale, une propriété de transfert qui circule entre les individus et qui dispense de la détention d'une propriété patrimoniale et rentière pour penser son propre avenir et celui de sa famille. C'est une innovation tout à fait considérable, et les tensions et les résistances que j'ai rappelées à propos de ces deux séances du départ du XXe siècle, mais même dans l'entre-deux-guerres, au fond sont à la mesure de la rupture conceptuelle qu'a représenté ce nouveau paradigme de la propriété sociale. Et dans la période qu'on va voir aujourd'hui, on constate encore des résistances à ces évocations-là, notamment dans des groupes sociaux qui seront déclassés par le processus de modernisation de la société française à cette époque-là. Je pense aux petits commerçants, aux artisans, qui resteront assez réticents, notamment au principe de la sécurité sociale, du moins au début, ou dans la paysannerie, mais qui est en voie de réduction drastique dans les années 60, groupes qui vont refuser pendant près de deux décennies l'intégration au système général de la sécurité sociale. Ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs, je l'évoquerai tout à l'heure, il y a aussi les cadres, à cette époque-là, c'est les ingénieurs, une catégorie relativement minoritaire, proche de la ligne de direction des entreprises. On n'est pas encore dans l'ère de la banalisation des cadres, Mais les ingénieurs, à cette époque-là, au moment de l'instauration du système de sécurité sociale, vont eux aussi résister à leur intégration dans un système qui symbolisait pour eux la banalisation de leur statut social. Alors, je pense qu'il faut arriver à mesurer ce que signifie, au cours du siècle, l'évolution de l'état de salarié. Dans les années 30, la condition ouvrière connaît un début d'intégration sociale, hein, qui rompt un peu avec la fameuse formule que j'évoque souvent, mais qui appartient à Auguste Comte, et qui disait que les ouvriers campaient dans la nation. C'est-à-dire une espèce de statut, au fond, pas reconnu, pas institutionnalisé, avec des droits faibles, et ils sont là, parce que, ma foi, ils servent à quelque chose, mais rien de plus. Or, on commence à avoir, dans l'entre-deux-guerres, avec les assurances sociales, avec le début d'institutions des conventions collectives, même si elles ne marchent pas bien, on commence à voir se dessiner l'idée d'un statut salarial qui les fait sortir de la condition du prolétaire. Le prolétaire, c'est celui qui est dépourvu de tout. Le premier entrebâillement, alors c'est un début d'intégration qui se fait malgré tout dans la subordination, évidemment. Hein. On n'échappe pas au statut de salarié, au rapport patronal comme ça. Peut-être le premier entrebâillement de cette situation de subordination, on peut la trouver dans les congés payés. C'est-à-dire une des mesures de 36, une des mesures clés, parce que je l'ai dit la dernière fois, il y a deux mois, finalement, les revendications qui ont été satisfaites lors des accords Matignon n'étaient jamais qu'une espèce de remise à niveau social. Elles n'avaient pas grand-chose de radical ou de révolutionnaire. C'était une récupération qui, d'ailleurs, concernant les augmentations de salaire, ont été rattrapées dans les 18 mois qu'on suivit. Hein, donc, ça, la loi des reins des salaires, là, on sait bien que les hausses de salaire sont toujours récupérées, si on y prend garde, par la course des prix et les stratégies des employeurs. Mais les congés payés, eux, marquaient une véritable rupture parce que, au fond, c'est la première fois que les ouvriers étaient payés à ne rien faire. Parce que les congés payés, c'est ça. C'est qu'on est payé pour autre chose que pour travailler. Et là, on a une révolution, le terme est un peu exagéré, mais en tout cas, c'est un moment clé dans la relation sociale où, pour la première fois, les ouvriers peuvent être payés pour ne pas travailler pour le patron, payés à ne rien faire, pour le dire vite. On sait très bien qu'ils ont occupé les congés payés, comme le rapportent des films sur cette période-là, ou des récits des premiers congés payés de 36-37, ont été évidemment un grand moment d'exultation dans la classe ouvrière. Cela dit, ce début d'intégration, et on le verra aussi d'ailleurs dans les années qui va se poursuivre, sans s'enraciner dans les années suivantes, il faut se garder de deux illusions. La première serait de croire que ce processus d'intégration progressif est irréversible. Le salaire moderne, socialisé, comme le dit Friot, rend possible ce processus que Robert Castel appelle d'affiliation des travailleurs à la société, hein, c'est-à-dire d'acquisition des droits, d'intégration dans une dynamique sociale, donc rompant avec la marginalisation historique des ouvriers dans la société, mais il y a aussi des processus de désaffiliation qui peuvent prendre la suite, dans lesquels on est d'ailleurs depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Les phénomènes de précarisation, d'accroissement de la segmentation du salariat sont aussi des processus existants. Il y a une réversibilité au processus d'affiliation et la crise actuelle renforce naturellement ce risque, ainsi que le nombre de ceux qui y sont exposés. Alors, la deuxième illusion serait de croire abolir les frontières de classe au prétexte que il y a une progression de la condition ouvrière, une certaine moyennisation des modes de consommation, c'est-à-dire cette idée que du fait d'un relatif resserrement des inégalités sociales dans la période 50-60, qui est un processus peu contestable, qui s'est inversé, comme chacun sait, depuis les années 80, ce relatif resserrement des inégalités n'a pas conduit pour autant à la disparition non seulement des luttes sociales, des affrontements, mais 68 étant évidemment l'illustration massive, mais même cette idée que la classe ouvrière se serait dissoute dans la nébuleuse des classes moyennes au cours des années 60 ne tient pas bien parce que, tous les travaux sociologiques de l'époque le montrent, il demeure un particularisme ouvrier, une conscience de cet état subordonné, même si les conditions d'existence se sont alors considérablement améliorées. Alors, je vais rappeler quelques grandes données politiques intérieures et extérieures de cette période, parce qu'on ne peut pas désincarner la question sociale, elle s'inscrit dans des contextes et dans des batailles politiques et sociales, bien sûr, hein, et je reviendrai un peu sur les mouvements sociaux qui ont caractérisé cette époque, et puis pour conclure sur sa caractérisation. Donc, revenir un peu, retour critique sur cette appellation de 30 glorieuses. Vous savez qu'on l'a appelée rétrospectivement comme ça. C'est une expression de Jean Fourastier qui a été mise en vedette dans les années 80 pour désigner cette période essentiellement à travers le critère du plein emploi. Mais enfin, comme je dis souvent, les 30 glorieuses n'ont pas été glorieuses pour tout le monde. On était encore dans une période de difficultés, de temps de travail long, de conditions de travail pénibles, etc. Alors partons quand même du départ, c'est-à-dire de ce comment s'institue ce mécanisme des 30 glorieuses, c'est-à-dire une société fondée sur un type de croissance qui génère de la productivité, qui génère du pouvoir d'achat, qui génère un certain accès à la consommation et la réduction du risque de chômage qui a toujours plané sur la classe ouvrière. Alors on part, je l'ai dit tout à l'heure, on part du programme du CNR, du Conseil National de la Résistance. Alors son œuvre programmatique a été très amplifiée parce que le fameux programme du CNR contient en réalité que des têtes de chapitre. Et Bernard Friot, la dernière fois, a d'ailleurs dit que lorsqu'on dit que la sécurité sociale est une production du CNR, il y a 5 lignes. J'ai vérifié depuis, j'ai oublié de l'amener, mais je l'ai tiré. Enfin, on le trouve facilement sur Internet, le programme du CNR. C'est vrai que c'est 4 ou 5 lignes. Et sur le reste, il n'y a pas beaucoup plus de détails, sauf sur la question des paysans, où il y a de très longs développements sur l'avenir de la paysannerie, mais c'est le reflet des réalités sociologiques du moment. Cela étant, bon, il a une symbolique, une résonance forte, ce programme du CNR, mais aussi il affirme des intentions et des principes qui ont encadré le rôle de l'État. Il affirme aussi un certain nombre de principes moraux et sociaux que la droite, d'ailleurs, mettra du temps à défaire, et encore ne peut-elle pas le faire totalement ouvertement encore aujourd'hui. Enfin, il y en a qu'un qui ose, c'est Denis Kessler, là, vous savez, qui a été vice-président du MEDEF et qui, lui, a bien dit clairement, mais il a l'art de dire les choses clairement, il faut lui reconnaître ce mérite, que le programme, le moment, les années 90-2000, l'urgence de l'heure était d'en finir avec l'héritage du programme du Conseil national de la Résistance. Donc ça a le mérite de la clarté. Dans le champ politique, peu nombreux sont ceux qui avancent un tel programme radical, mais enfin, sans en parler, on peut commencer à le faire. En tout cas, on verra que dans la partie économique, les moyens d'instaurer la politique, la plupart des instruments d'intervention publique prévus par le CNR ont été détruits dans les années 80, droite-gauche se succédant aux affaires pour le faire. Alors, la partie économique de ce programme prévoyait des nationalisations, la planification, la démocratisation de la direction de l'économie. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est ce programme-là qui est mis en œuvre par une alliance tripartite qui poursuit l'alliance construite dans la résistance. Le Parti communiste, le Parti socialiste, SFIO, le MRP, le Mouvement républicain populaire, qui est un parti de sensibilité démocrate chrétienne, qui va poursuivre, après 1944, l'influence acquise par les courants chrétiens dans la résistance. Et au début, tout ça se fait derrière la figure tutélaire du général de Gaulle, qui incarnait évidemment mieux que d'autres la résistance. Et après 1946, ça se fera sans lui. Alors, il faut distinguer deux périodes pour être commode dans cette jusqu'en 68. La première jusqu'en 58, la 4e République, naissante et finissante, et la seconde partie de 58 à 68. Évidemment, le changement de 58 apparaît spontanément comme une bonne date. Mais enfin, sur pareil, on pourrait en trouver d'autres. Alors, au cours de cette première période, on est vraiment dans celle de la reconstruction. La tâche est immense. On peut discerner quatre fonctions majeures, quatre enjeux majeurs: épurer, survivre, construire, unir. Alors, épurer, bon, je n'insiste pas, on connaît les épisodes de cette période. Précisons quand même qu'il y a eu une épuration légale, une épuration un peu plus expéditive, et que si au total il y a eu environ 10 000 règlements de compte légaux ou illégaux, ce qui est pas mal, en tout cas l'épuration légale, elle, a été relativement modérée. Et en tout cas, dans le mouvement syndical, on en reparlera un jour, l'épuration syndicale qui a suivi ceux qui avaient participé au gouvernement du maréchal Pétain à l'installation de la charte du travail seront exclus du mouvement syndical, certains à vie, d'autres pour quelques années, mais ça ne conduira pas évidemment à des exécutions. Il a été dit que c'était une période de revanche, mais les historiens aujourd'hui ont fait le clair sur une période qui ne pouvait pas être que se régler avec des échanges de bouquets de fleurs, évidemment. Mais sans doute, on est revenu sur un certain nombre de visions exaltées de cette période-là. Alors, le mouvement syndical, j'en parlais, il joue un rôle très important à cette époque-là, parce qu'il a joué un rôle important dans le Conseil national de la Résistance. Lors de la libération, lors de la proclamation de la libération de Paris en 1944, le Conseil national de la Résistance est présidé par Louis Saillant, qui est un représentant de la CGT. Et même d'ailleurs, quand on regarde la façon dont a été constitué le CNR, vous savez que c'est Jean Moulin qui a été la cheville ouvrière au nom du général de Gaulle pour la mise en place du CNR, Moulin attachait une certaine importance à la réunification dans la clandestinité de la CGT, qui a été une condition pour agréger autour du CNR des forces de la résistance qui étaient dispersées et qui, au début, n'étaient pas nécessairement partantes pour un tel regroupement. Ça ne s'est pas fait de manière simple, mais donc le mouvement syndical jouait un rôle important, référentiel important, et à la libération en plus, il y a une espèce que Antoine Pro a appelée une ruée syndicale, c'est-à-dire que la CGT a affiché à l'époque 5 millions d'adhérents. Bon, le chiffre était un peu exagéré. Mais enfin, tout de même, c'était dans ces eaux-là, à 15% près ou 20% près, on est quand même dans ces ordres de grandeur, enviables par rapport à la situation actuelle. Mais aussi la CFTC, d'ailleurs, qui était une petite organisation avant-guerre, de chrétiens assez sourcilleux, et qui ressort de la guerre avec 4 à 500 000 adhérents qui n'allaient pas tous à la messe le dimanche. Donc c'est une organisation qui change, on y reviendra, on fera une session sur l'histoire du syndicalisme chrétien qui nous amène à la CFDT. Mais en tout cas, la libération est aussi pour cette organisation un bond qualitatif et quantitatif. Donc le mouvement syndical joue un rôle tout à fait clé dans cette période-là. Et comme en 1919, comme après la Première Guerre mondiale, il incarne d'une certaine façon une vague d'espoir qui a été à la hauteur des épreuves qu'avait subies la population pendant la guerre. Alors, ne pas oublier, donc épurer, survivre, parce que le problème clé de cette époque-là, c'est l'approvisionnement. Il va y avoir des restrictions jusqu'en 1949, où les derniers tickets de pain seront abrogés en janvier 1949, mais il y en aura plus tard, même au courant de l'année 1949. Et malgré ces difficultés-là, le mouvement, ou à cause de ces difficultés-là, le gouvernement met en place le programme qui a été prévu. Il nationalise, j'y reviendrai en conclusion, l'ensemble du système bancaire et financier, l'énergie, les charbonnages, EDF, Charbonnages de France, qui jusque-là étaient des entreprises privées, qui sont agrégées dans un secteur public, plus quelques entreprises industrielles qui avaient collaboré plus que d'autres à l'effort de guerre allemand, comme Renault, Berlier et quelques autres, qui ont été nationalisées à cette époque-là. Premier parti en influence, le Parti communiste participe au plus haut niveau à la mise en place des nouveaux gouvernements. Son secrétaire général, Maurice Thorez, revient de Moscou, où il a passé la guerre, devient ministre d'État, ministre de la fonction publique, dans un premier gouvernement du général de Gaulle, et après l'élection de la première constituante, et après, en 1945, donc, et après, il restera au gouvernement, Bidault, après le départ du général de Gaulle, en compagnie de 4 autres ministres communistes. Entre-temps, il a ordonné le désarmement des milices patriotiques, et Thorez a annoncé le ralliement du Parti communiste français, c'est sa nouvelle appellation après-guerre. Avant, il s'appelait Parti communiste, section française de l'Internationale communiste, mais après la dissolution du Comintern en 1943, le Parti communiste a adopté cette nouvelle appellation de Parti communiste français, qui n'est pas un changement anodin. Par là, il décidait aussi son inscription dans le territoire national, dans la vie nationale. Et ce que confirmera Thorez dans un interview à un journal anglais qui va faire beaucoup de bruit en France, où il annoncera le ralliement du Parti communiste à l'idée que la transition au socialisme peut se faire par d'autres moyens que celui de la révolution soviétique. En gros, c'était, et comme il venait d'accepter le désarmement des milices patriotiques, c'était l'acceptation du jeu parlementaire démocratique, ce qui, dans l'histoire du PCF, était une conversion qui n'était pas anodine. À cette époque, c'est le premier parti de France. Il fait 26% aux premières élections à la Constituante, 28% à la deuxième, c'est son apogée électorale en France, mais tout de même, avec ça, il distancie largement tous les autres partis politiques, et il est bien au centre de la vie nationale à cette époque-là, de même que la CGT, qui, à ce moment-là, est contrôlée par les communistes de manière assez étendue. Premier congrès de reconstitution en 1946, Il y a deux tendances, hein, comme il y avait avant-guerre, ce qu'on appelait les confédérés, les proches de Léon Jouault, la tendance réformiste, qui était majoritaire avant-guerre. Et là, dans les premiers votes du congrès de reconstitution, on se rend compte que les communistes, ce qu'on appelle les ex-unitaires, hein, tiennent à peu près 80% des mandats de la CGT. Le mouvement communiste, à l'époque, est l'aile marchante, hein, au moment de la reconstruction. Produire est le seul mot d'ordre de classe, dit Torrens, et la grève est l'arme des trusts. C'est toute la période où la CGT va participer à ce qu'on appellera la bataille de la production. Il faut produire, 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 c'est le leitmotiv. Et il y a souvent, on voit des images où on entend ces phrases que Torrens adresse aux mineurs à cette époque-là, qui sont évidemment très sollicités du fait de l'importance, hein, de la production de base qu'est le minerai de fer, le charbon, etc. Alors on est dans une phase d'économie administrée, les prix, les salaires sont gérés par décret. Mais il commence à y avoir des conflits sociaux parce que les prix, les salaires sont très bas, beaucoup plus bas que ceux de 1939. Il y a eu beaucoup d'inflation pendant la guerre. Il y a donc des conflits sociaux importants et de nombreux travailleurs ne comprennent pas d'ailleurs ce discours du Parti communiste et de la CGT. D'ailleurs, des syndicalistes commencent à quitter la CGT avant même la grande scission qui va l'affecter à la fin 1947. Par exemple, dans les PTT, à la SNCF, dans le Livre, il va y avoir des organisations dissidentes qui vont quitter, commencer à quitter la CGT à cette époque-là, ce que commence à ressentir très vite, évidemment, le Parti communiste. Et au printemps 1947, ils vont être tiraillés entre eux. L'aspiration à continuer à jouer un rôle clé, central, au niveau gouvernemental, mais aussi le mécontentement qui gronde et qui interpelle un peu leur présence au gouvernement. Et on sait que c'est à l'occasion d'une grève chez Renault, à la régie Renault, en 1947, que le Parti communiste va changer d'attitude et se placer du côté des grévistes. Après avoir, dans un premier temps d'ailleurs, plutôt combattu les initiateurs de la grève, il faut dire que c'était des trotskistes, hein, c'était la voie ouvrière, les bartistes, comme on disait à l'époque, les ancêtres de lutte ouvrière, hein, qui étaient à l'origine de cette grève chez Renault. Mais le Parti communiste, sentant un risque de débordement sur sa gauche, rompt d'une certaine manière l'alliance gouvernementale et choisit le parti des grévistes. Et c'est à ce moment-là que ses ministres vont être chassés du gouvernement, le 4 mai 1947, le jour même où le général Marshall prononce à Washington son discours et sa proposition de mettre en place un plan de relance d'aide à l'Europe en reconstruction, plan qui va porter son nom, le fameux plan Marshall, qui va être au cœur des oppositions politiques très fortes dans de nombreux pays européens, mais spécifiquement en France et aussi en Italie. Donc le champ politique va être traversé par ce débat, qui est un débat qui porte pas seulement sur le fait de savoir si on accepte ou pas l'aide économique des États-Unis, et qu'évidemment personne n'imagine totalement désintéressé. On sait très bien que le plan Marshall correspondait aussi à des besoins de reconversion économique des États-Unis. Personne n'est trop dupe, mais tout de même, c'était une aide apportée à la reconstruction, mais c'était aussi une aide qui était adossée à un système d'alliance qui commençait à partager le monde, hein, entre les alliés de la guerre commençaient à se diviser entre l'Union soviétique, ses alliés, et de l'autre côté les États-Unis et leurs alliés. Donc le débat qui était derrière le plan Marshall, c'était pas seulement un programme d'aide économique, c'était l'enjeu d'un système d'alliance nationale et internationale, et c'est autour de ça que se sont organisées plusieurs ruptures. C'est la période d'inauguration de la guerre froide, dont le plan Marshall peut être considéré comme le moment initiateur. Alors après, c'est la guerre de Corée qui va tendre un peu les relations entre les alliés de l'Union soviétique et ceux des États-Unis, mais on rentre dans une ère de grande tension internationale qui va en France se traduire par une tension politique extrêmement élevée. On ne se rend pas compte, hein, a posteriori, mais à l'époque, on parle aussi de risque de guerre. Hein. La question de la guerre et de la paix est à nouveau posée, d'une guerre possible entre les États-Unis et ce qu'on appelle le monde libre, et puis l'Union soviétique et les alliés qu'elle s'est construite entre 1945 et 1948, hein, c'est-à-dire cette ceinture, disons, d'États satellites en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Pologne, en République démocratique allemande, etc. Hein, et donc il y a alors une guerre, en plus la perspective d'une guerre mondiale en présence de la détention de l'arme atomique, hein, à cette époque-là, qui est nouvelle et qui sème un peu l'effroi. On est dans une période de grande tension Et sur le plan intérieur, ça se traduit en France par une certaine violence des conflits sociaux qui mêlent toujours des problèmes sociaux réels et une dimension politique, idéologique extrêmement forte. Bon, le cas type, alors il y a les grèves de fin 1947 hein, qui sont connues, mais celles qui ont laissé une trace dans la mémoire, c'est les grandes grèves de mineurs de novembre 1948, hein, qui a occupé 8 semaines, et c'est une grève qui a démarré dans à peu près tous les bassins, dès le départ, contre ce qu'on a appelé les décrets Lacoste. Lacoste était le ministre de la reconstruction industrielle, je crois, ou de l'économie et de l'industrie. Lacoste qui avait été syndicaliste CGT, d'ailleurs, avant et pendant la guerre. Mais c'était la remise en cause de ce qu'on appelait le statut du mineur. En 1945 a été mis en place le statut du mineur, dans lequel Maurice Thorez a joué un rôle important. Vous savez que dans Fils du peuple, là, qui est son ouvrage de mémoire, il se situe parmi les mineurs, il venait du Nord, il raconte son enfance dans les corons, etc. Donc il a toujours été faire ses grands discours auprès des mineurs. Bon. Donc il avait contribué à l'adoption de ce statut du mineur qui prévoyait une réduction de la durée du travail quotidienne, un système de mutuelle aussi, des primes salariales, etc. En 48, donc les décrets Lacoste remettent en cause un certain nombre de ces acquis-là. Dans une période où les mineurs travaillent d'arrache-pied, évidemment, ces décrets ont été assez malvenus. Il y a une espèce de réaction du corps professionnel mineur organisée par les syndicats, spécialement la CGT. Mais comme la CGT, à l'époque, fait un lien très étroit entre les revendications et la lutte contre le plan Marshall, la lutte aussi contre l'approvisionnement de l'Allemagne, puisque il était envisagé qu'une partie du charbon produit en France aille en Allemagne. Il y a eu énormément de conflits, notamment dans l'est de la France, mais aussi à Marseille, sur les quais, où on faisait en sorte de bloquer. Enfin, c'était surtout, en l'occurrence, l'acheminement vers l'Allemagne, c'était surtout sur la mer du Nord, où il y a eu des heurts considérables là-dessus. Donc des luttes extrêmement violentes, et ce conflit des mineurs. Il y a eu des mineurs tués dans la Loire, il y a eu des coups de feu, l'armée entourait les corons. Enfin, c'est pas si vieux que ça, 60 ans dans l'histoire sociale, mais il y avait une violence sociale tout à fait considérable. Le ministre de l'Intérieur de l'époque était le socialiste Jules Mocq, c'est lui qui avait créé les compagnies de CRS. Ça a été une période de violence d'État assez radicale. Jules Mocq, que certains appelaient Jules Moche à cause de ça. Bon, c'était pas un truc. Alors c'est un conflit qui va mal se terminer, qui va être défait, la répression va être terrible, et il va signer le déclin, un déclin assez brutal de la CGT, de l'influence de la CGT à cette époque-là. Le glissement à droite du gouvernement va être confirmé. Bon, les socialistes quittent les alliances gouvernementales en 1951, et le MRP lui-même, qui au départ, le MRP de la résistance, il s'appelait le parti de la révolution par la loi. La révolution par la loi, c'est un mot d'ordre un petit peu étrange, mais il est dans l'esprit de l'époque. Hein. Le MRP avait participé au programme du CNR, donc il avait des grandes ambitions sociales. Il va progressivement glisser à droite au fil des années 50 et aussi au fil d'ailleurs de l'évolution de la question coloniale. Alors les socialistes reviennent en 1956, parce qu'en décembre 1956, il y a des élections législatives qui donnent une majorité à ce qu'on a appelé le Front républicain, c'est-à-dire une alliance de la gauche non communiste, soutenue d'ailleurs à l'époque par le Parti communiste. Il y a des accords de désistement de deuxième tour, hein, le fameux Front républicain. Mais bon, 1956, une courte période qui va être d'ailleurs très entachée par l'aggravation de la guerre d'Algérie, dans laquelle le gouvernement enverra le contingent à partir de 1956, donc un espèce d'enlisement des socialistes dans cette guerre coloniale. Et puis la 4e République arrive assez vite, en 1958, avec le retour du général de Gaulle et un changement de régime. Donc cette période est vraiment dominée par la guerre froide, mais elle est pour la France aussi dominée par les guerres coloniales. Hein, pas seulement l'Algérie, ça démarre en 1954. D'abord la guerre d'Indochine, hein, qui démarre dès l'après-guerre, hein, dès ce qu'on a appelé le massacre de Sétif en mai 1945. Je m'arrête pas, hein, mais ça a pesé d'un poids considérable dans la société française. Évidemment, à cette époque, il faut avoir cela à l'esprit, y compris dans la question sociale, parce que par rapport aux luttes sociales, les guerres coloniales ont pesé quand même extrêmement fort sur la mobilisation des travailleurs. Donc on a une conflictualité qui faiblit plutôt au cours de la période, même s'il y a des grandes luttes assez significatives. Dans l'ensemble, on voit une moindre participation des ouvriers au conflit, et des grèves plutôt moins longues. Mais il y a quand même, au milieu de cette séquence, des conflits exemplaires, mais qui présentent une certaine radicalité. Je pense par exemple aux grèves qui sont quasi insurrectionnelles à Saint-Nazaire, au chantier de l'Atlantique, avec des affrontements violents entre les CRS et les ouvriers. Alors, il y a une anecdote d'ailleurs dans le livre de Gilbert Declerc, est un animateur de la CFTC de cette époque-là, à Saint-Nazaire. C'est un militant ouvrier qui a une certaine aura, et il compte parmi les responsables de la CFTC qui poussent à l'évolution de la centrale catholique. Et la Confédération, qui est extrêmement modérée à cette époque-là, demande dans un courrier ou une communication téléphonique à Declerc ce dont il a besoin, comment la CFTC pourrait aider dans ce conflit. Et Declerc répond, il raconte ça dans ses mémoires, que si ça ne gêne pas trop l'esprit chrétien, nous aurions besoin d'un lot de grenades offensives. Alors, vous imaginez la tête de Gaston Tessier à l'autre bout. Mais ça en dit assez long sur... Bon, c'était une boutade. Il n'en reste pas moins qu'il y a encore des traces dans la mémoire sociale de Saint-Nazaire, des affrontements de 55 qui ont été vraiment terribles. Hein. On est dans une période vraiment de grande radicalité sociale. Donc, lorsqu'on parle d'intégration ouvrière, il faut toujours avoir ça en tête, en contrepoint. Alors, après 58, donc, on a une nouvelle ère qui va s'ouvrir. La période redevient très politique, évidemment, avec le retour, cette espèce de coup d'État qui ne dit pas son nom, du général de Gaulle, mais aussi, jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, la menace, hein, le coup d'État des colonels, et puis la présence de l'OAS après, une certaine acceptation du gaullisme dans la classe ouvrière aussi, hein, il faut bien le dire, qui n'affaiblit pas trop le Parti communiste, mais qui affaiblit beaucoup l'électorat ouvrier des socialistes. Et évidemment, la guerre d'Algérie qui culmine en violence entre 58 et 61. Alors, la fin de la guerre en 62 va être un véritable tournant. D'ailleurs, si on veut faire une vraie chronologie du mouvement social, c'est 62-63 qui est la bascule beaucoup plus que 58. Parce que c'est une nouvelle période qui s'ouvre, évidemment, à de nombreux égards, non seulement en matière de conflits sociaux, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, mais aussi avec ce qu'on peut appeler les historiens ont appelé la faille sociale du gaullisme, qui s'ouvre en 63 avec, à nouveau, le conflit des mineurs. Il y a une grande grève des mineurs en 63, qui est liée au plan, que vous avez peut-être entendu parler, le plan Pinet-Rueff, qui a été adopté en 1958 par le général de Gaulle, dès qu'il arrive aux affaires, et qui commence par geler les salaires du secteur public. Or, les mineurs sont dans le secteur public depuis la nationalisation des charbonnages. Et en 63, ils évoquent le décrochage de leur salaire par rapport au privé, puisqu'ils traditionnellement ils se comparaient à l'évolution des salaires dans la métallurgie. Ils chiffrent à 11% leur décalage salarial par rapport aux métallurgistes depuis 58. Et donc, il y a une revendication salariale qui démarre. C'est d'ailleurs la CFTC des mineurs qui lance un mot d'ordre de grève illimité. La CGT et FO seront plus prudentes. Ils vont vers une grève de 48 heures. Mais le général de Gaulle a la maladresse de signer un décret de réquisition des puits de mine. Vous savez qu'on peut le faire. Dans le débat actuel, d'ailleurs, sur le service minimum, il y en a qui commencent à reparler de cette affaire de réquisition. Mais si c'est pour donner le même effet que dans la grève des mineurs de 63, je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne idée, parce que c'est le décret de réquisition qui a provoqué l'extension du mouvement. Et aussitôt, tous les mineurs ont débrayé dans tous les bassins, sont partis dans une grève illimitée qui va quand même durer un mois complet. Il y a une extrême solidarité des mineurs entre eux, mais aussi de la population avec les mineurs. C'est là qu'on fait les premiers sondages de popularité des conflits, d'ailleurs. Et on se rend compte que la grève est soutenue largement par l'opinion publique. Le gouvernement joue l'essoufflement, mais en même temps, il a perdu une popularité énorme, et notamment le général de Gaulle, aux yeux des ouvriers, qu'il avait très souvent accompagné dans le passage de la 4e à la 5e République. Mais ça a été le compromis final, et d'ailleurs pas très très bon pour les mineurs. Le gouvernement a laissé jouer l'essoufflement du mouvement, et on sait bien très souvent, cette stratégie est la bonne, à ceci près qu'elle a laissé un goût amer et qu'elle a été l'occasion d'un grand mouvement de solidarité qui a contribué à l'essor d'une conscience collective parmi l'ensemble des travailleurs. Et la période qui suit, on voit un changement qualitatif très tôt, et on peut considérer que c'est à partir de 63 que monte, de manière inexorable, en tout cas progressive, disons, une montée en puissance du mouvement social vers mai-juin 68. Quand on parlera de 68, vous voyez que souvent, il y a une abondante production éditoriale, encore l'année dernière à l'occasion du 60e anniversaire, dont un bouquin intéressant, un très gros livre, qui s'appelle « Les années 68 ». C'est les historiens, il y a plein de monographies qui ont été faites, mais l'économie générale, c'est de dire qu'on ne peut pas parler de l'année 68. Les années 68, ça commence un peu avant, et ça continue jusqu'à un peu après. On a bien là une dynamique sociale dans une tranche d'histoire là, qui manifestement commence dans les années 63-64, et dont le point de départ a été cette grève des mineurs. D'ailleurs, on le voit dès 65, puisqu'à l'élection présidentielle, à la surprise générale, et surtout à la surprise du général, de Gaulle est mis en ballottage au premier tour, alors qu'on lui annonçait une réélection triomphale, et c'est à l'évidence le lâchage des ouvriers qui en est la cause. Alors, dans cette période 65, il y a un petit ralentissement des conflits sur 65, mais qui va aussitôt redémarrer après 66 et 67, qui marquent un essor considérable de la conflictualité sociale. À l'époque, on la mesure, c'est le ministère du Travail qui mesure les jours de grève. On appelle ça les journées individuelles non travaillées. C'est le compteur qui sert à évaluer l'intensité de la conflictualité sociale. En 66, on décompte 2,5 millions de journées individuelles non travaillées. En 66, pardon, et 4,5 millions en 1967. Pour vous donner une comparaison possible, la dernière année où on les a comptés, les fameux JINK, là, c'est-à-dire en 2004, bon, c'est devenu un indicateur qui ne correspond plus à grand-chose, donc on a laissé tomber, mais la dernière fois que le ministère les a recensés, il y en avait 550 000 en 2004. Donc vous voyez l'écart, et avec un nombre de salariés incomparablement plus important qu'à cette époque-là. Donc on peut vraiment parler d'une ébullition sociale. Sur le plan politique, d'ailleurs, la gauche fait jeu égal en voie avec la droite aux élections législatives de 67. C'est une gauche relativement unie, puisque le Parti communiste est à cette époque-là sur une logique frontiste, une logique d'union de la gauche, une logique de programme commun, d'élaboration du programme commun. Il a soutenu dès le premier tour la candidature de François Mitterrand en 65, et il y a un accord de désistement en 1967, et la gauche non communiste s'est rassemblée au sein de ce qu'on a appelé la FGDS, la Fédération de la gauche démocrate et socialiste. Donc c'est un premier regroupement de la gauche non communiste dont on sent qu'il va se donner, enfin on le sent a posteriori, qu'il va produire ce programme commun dans les années 70, après un intermède douloureux politiquement en mai 68. Alors pourquoi on a appelé cette période les 30 Glorieuses ? Les années 60 appartiennent en effet à ce qu'on a appelé, en économie on appelle ça les années fordistes ou fordistes keynésiennes, qui sont marquées par une croissance forte, un quasi plein emploi, une inflation à peu près contenue, et une progression elle aussi continue des salaires réels. C'est une époque qui est marquée par une progression des budgets sociaux. Il faut rappeler que la France en reconstruction, un pays ruiné, comme je l'ai dit tout à l'heure, met en place un système de retraite par répartition et commence à verser immédiatement des retraites. Et le poids des retraites dans le PIB, qu'on parle beaucoup de ça, il est de 5% à la Libération, il est de 11% en 1968. Et l'économie française digère ça sans aucune difficulté. Il est de 17% aujourd'hui. Alors on annonce la grande catastrophe qui serait à 20% en 2020, comme si ça avait la moindre importance. Bon, enfin, c'est un autre débat, on en reparlera. L'État connaît certes un déficit public qui préoccupe beaucoup les libéraux, mais enfin 2%, les mauvaises années. Vous voyez que tout est relatif. Le stock de la dette publique était de 16% en 68, la moitié du taux de 58. Mais aujourd'hui, on est à 66% d'ailleurs. Bon. Donc une situation économique et budgétaire qui est en dynamique. On sent derrière une économie qui produit des richesses. Et le cinquième plan, qui avait été adopté pour la période 66-73, tablait encore sur un taux de croissance moyen de 5%. Alors ça, tout ça, c'est des moyennes. C'est pour ça que la notion de 30 glorieuses mérite un examen critique, parce que les indicateurs en moyenne progressent. En même temps, avec l'actualité sociale que j'évoquais avant, on voit bien qu'il y a une lutte pour la distribution, la redistribution, qu'on est encore dans une société inégalitaire et que sous ces évolutions nominales se cachent évidemment des réalités qui sont tout autres. Alors le plan, d'ailleurs, une des raisons, je ne vais pas détailler la politique économique de cette époque-là, mais le plan Rueff est un plan déjà de gel des salaires, de la dynamique salariale, et il sera alourdi encore en 63 par le fameux plan de stabilisation de Giscard d'Estaing, qui vient d'être nommé ministre des Finances, ce qu'on a appelé le plan de refroidissement, c'est-à-dire l'idée étant de la crainte d'un emballement inflationniste, et le risque de surchauffe économique. Donc on freine. Et alors par quoi on commence par freiner? Par les salaires, bien sûr. Et donc il y a eu l'essai, la tentative d'embarquer les syndicats dans une logique de politique des revenus, qu'ils ont refusé d'ailleurs, contre lequel ils ont organisé des manifestations importantes. En 62, il y a 1 million de rapatriés qui rentrent d'Algérie, c'est pas évident à digérer. Il y a aussi 270 000 jeunes qui rentrent, du contingent, hein, qui reviennent. Donc on a des tensions sociales, mais une économie encore dynamique qui arrive à absorber ces chocs. Alors, un événement important qui est en janvier 66, la signature par la CGT et la CFDT, qui vient de naître, la CFDT, hein, qui fait sa transformation en 1964, devient une organisation importante dans le paysage social, y compris dans le secteur privé, auprès des ouvriers. Et en 66, la CGT et la CFDT, qui sont les deux organisations essentielles dans le secteur privé et dans l'industrie, concluent un pacte d'unité d'action qui va avoir une grande importance sur la suite, et notamment les deux années, elle sera à l'évidence, cette dynamique unitaire est porteuse des conflits que j'évoquais tout à l'heure pour les années 66 et 67, et on va la retrouver, y compris dans 68, même si les deux organisations n'ont pas tout à fait le même comportement par rapport aux événements de mai et juin. Ce pacte d'unité d'action comporte 7 points, je les évoque, 4 qui ont un caractère immédiat, le pouvoir d'achat, les droits syndicaux, la sécurité sociale, les fameuses... le risque d'ordonnance, hein, les ordonnances sur la sécurité sociale qui vont arriver en 67, et l'indemnisation du chômage partiel, vieille histoire. Et 3 revendications sont convenues en commun entre les deux centrales syndicales, qui sont un peu plus structurelles, on pourrait dire un peu plus politiques. Hein. Ils demandent des investissements publics, des industries nouvelles pour garantir le droit à l'emploi, parce qu'on sent bien, même dans cette période où il n'y a pas énormément de chômeurs, il y a ce qu'on appelle un chômage frictionnel, il y a un peu de chômage, mais... Il y a 200 000 chômeurs à peu près. Bon, évidemment, aujourd'hui, ça fait sourire. À l'époque, ça ne fait pas sourire du tout, parce qu'on craint quand même que l'emploi ne se dégrade, et les syndicats ont réagi assez en amont par rapport à cette dégradation éventuelle. Ils revendiquent des industries nouvelles pour assurer le droit à l'emploi, une réforme de la fiscalité. Donc on a un accord programmatique entre ces deux centrales qui vont organiser des journées d'action tout à fait considérables en 66. Et en 67. Alors, ils cherchent à l'époque une ouverture avec le CNPF pour négocier sur les conditions de travail, sur les salaires ouvriers, les carrières, etc. Évidemment, ils vont se heurter au blocage du CNPF qui refuse de négocier. Il a adopté à l'époque, le CNPF, un document programme qui s'appelait la charte libérale, qui proposait de remettre le profit à sa vraie place. Et la doctrine, pour le reste, c'était, alors c'est très officiel, hein, c'est eux qui appelaient ça comme ça, bouche cousue, porte close. C'est ça la conception historique, hein, de la relation sociale telle que le CNPF de l'époque... Depuis, ils ont fait des progrès. Hein, ils parlent beaucoup de dialogue social. Mais à l'époque, on affirmait les choses assez clairement. Et d'ailleurs, hein, le front commun CGT-CFDT, c'est d'abord un front commun pour obtenir l'ouverture de négociations sur les points de la plateforme commune. Alors, à ce niveau global, hein, de mobilisation, on peut ajouter d'ailleurs des grèves industrielles tout à fait radicales. Rodi Aceta, une grève d'un mois... À propos de rattrapage salariaux, les chantiers navals, Saint-Nazaire, toujours, 63 jours de grève des mensuels, les mines de fer en Lorraine, etc., Berlier à Lyon. Il y a des grands conflits sociaux à cette époque-là qui parlent de l'industrie, qui parlent des gros bataillons, hein, du syndicalisme. On le voit bien, c'est le Nord, c'est la Lorraine, les Pays de Loire, Rhône-Alpes, c'est vraiment, à cette époque-là, le cœur de la puissance syndicale. Mais en même temps, on commence à discerner du nouveau dans ces formes de lutte. Et l'occupation des locaux chez Rodia. Alors l'occupation des locaux, c'est pas tout à fait nouveau, hein, en 36, c'est la grande innovation des grèves de 36, mais on avait un peu moins vu ça depuis. L'occupation des carreaux des mines, avec blocage des envois de minerais en Lorraine. On a vu ça, les manifestations en ville à Saint-Nazaire, les manifestations de femmes d'ouvriers, etc. On voit quand même des formes de conflictualité sociale assez nouvelles dans la geste traditionnelle du mouvement ouvrier, et aussi une part d'initiative des salariés directement dans les entreprises et les sites, dans un cadre syndical certes, mais avec des innovations qui les décalent un petit peu de l'action traditionnelle. D'ailleurs, il y a des documents très intéressants auxquels j'ai pu avoir accès, je m'en suis même fait une photocopie, c'est les débats entre la CGT et la CFDT dans ces années-là. Dans les deux années 66-68, les confédérations se rencontrent régulièrement et font le point de la situation, de l'avancée de leurs mots d'ordre, de ce qu'il convient de faire ensemble. etc. Et à un moment donné, dans la discussion, Eugène Descamps, qui est le secrétaire général de la CFDT, évoque une grève qui vient d'avoir lieu à Caen, je ne sais plus si c'est la Savième ou à l'usine Renault, mais il dit qu'il perçoit des difficultés, par exemple, à retourner au travail après la grève, même lorsque elle a obtenu satisfaction, et que les jeunes ouvriers ont des comportements assez radicaux dans la conduite du mouvement. Alors, rétrospectivement, c'est intéressant à voir, parce que dans les grèves qu'il va y avoir, à la fois en 68 et dans les années 70, on va effectivement voir émerger aussi les travailleurs immigrés, et aussi cette jeunesse ouvrière qui va un petit peu déporter le mouvement syndical classique. Alors, donc voilà, donc on a une période malgré ce que je vais dire maintenant, c'est-à-dire c'est aussi une époque d'intégration relative hein, des ouvriers dans la société. Tout ça se fait quand même dans un climat de disputes et de disputes, pour prendre un terme imagé, parce que c'est un peu plus que de la dispute. Hein. Là, on est dans des luttes sociales relativement intenses. Alors, d'une certaine façon, malgré tout, cette période de l'après-guerre est celle de ce que Castel appelle l'institution de la société salariale. Donc je l'ai dit, la classe ouvrière avait déjà connu un peu un début d'intégration, hein, qui au fond l'ont fait un peu quitter le statut du prolétaire qui n'a à perdre que ses chaînes. Hein, c'est l'image de l'indigne salariat, hein, tel qu'on le retrouve dans la littérature du 19e siècle, ou même d'ailleurs dans sa formulation marxienne, puisque Marx voit dans la classe ouvrière la classe potentiellement révolutionnaire pour la raison que c'est la seule qui n'a rien à perdre à une transformation révolutionnaire de la société. Mais après les années 50-60, on a affaire à une classe ouvrière qui commence à avoir des acquis sociaux, hein, qui n'est plus tout à fait dans le dénuement qui accompagnait la condition prolétarienne jusqu'à une période avancée de notre histoire sociale. Et bon, il y a une progression du nombre des ouvriers dans la société, une différenciation aussi. Il y a des enquêtes qui montrent que il y a les ouvriers qui sont directement productifs, mais il y a aussi toute une partie des ouvriers qui sont autour de l'acte de production. Donc il y a en même temps une différenciation des groupes ouvriers dans cette croissance de la population ouvrière. C'est que l'apogée du nombre des ouvriers, c'est le recensement de 1974, hein, qu'après on va avoir un relatif déclin du nombre relatif des ouvriers. Mais ce qu'on voit aussi, c'est se constituer à cette époque ce qu'on pourrait appeler, certains ont appelé, un bloc ouvrier-employé. Hein, parce que les employés deviennent importants, par exemple le développement du commerce de grande surface, hein, qui est le propre hein, de cette période-là, avec très souvent d'ailleurs des ménages mixtes, avec une femme employée, un mari ouvrier, etc., donc qui montre que là, sociologiquement, il y a des passerelles qui se nouent entre ce qu'on appelle la classe ouvrière, traditionnellement, et ce groupe des employés, on ne peut pas dire cette classe des employés, parce qu'elle n'est quand même pas pourvu au départ d'une conscience de classe d'employés. Vous savez que pour définir une classe sociale, il y a plein de définitions, mais enfin, il y en a au moins une qu'on peut accepter, qu'il ne suffit pas d'avoir un statut économique, mais encore qu'un groupe peut se définir comme une classe, comme un acteur historique, à partir du moment où il a lui-même conscience de ses buts et conscience de cette identité collective propre à ses modes de vie ou à sa situation au regard des rapports de production, comme on dit dans l'analyse marxienne un peu traditionnelle. Donc on peut dire qu'à cette époque-là émerge un bloc ouvrier-employé qui, du coup, ça fait du monde, et qui va exercer un effet d'attraction et de rejet d'ailleurs, sur d'autres groupes qui sont à la périphérie, par exemple le monde paysan, mais plus encore parmi les petits commerçants et artisans, dont le mouvement Poujade, hein, qui émerge en 1953, va être la parfaite expression, hein, c'est ce que Michel Vinocq a appelé les vaincus de la modernisation. C'est vrai que à partir de 45-50, à coup d'investissement massif, l'économie française va connaître une modernisation tout à fait considérable qu'elle n'avait pas connue, hein, même dans l'entre-deux-guerres, qui avait déjà vu une première extension du taylorisme, du faillolisme, on dit en France, ou de ce qu'on appelle en général le fordisme, la division du travail, l'ouvrier masse, le travail à la chaîne, etc. Donc c'est vraiment dans les années 50 que va se faire cette croissance de la production industrielle et avec elle du groupe des ouvriers. Alors il y a aussi un groupe qui émerge, qui est à la fois inquiet et attiré, repoussé par la naissance de ce bloc, enfin l'émergence de ce bloc ouvrier-employé, c'est l'essor du groupe cadre. Alors, la notion de cadre, vous savez qu'elle est très franco-française, vous ne la trouverez pas ailleurs, hein, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, il n'y a pas de traduction, on ne sait pas ce que c'est que les cadres. Il y a des employés supérieurs, puis après il y a les employés de direction. Mais la notion de cadre telle qu'elle s'est identifiée en France n'existe pas ailleurs. Et pour l'expliquer, cette existence, il faut, ça appartient en plein à cette période-là, 45-46 et après. Il y avait des ingénieurs à l'époque. C'est pas ce que sont les cadres, ce que sont devenus les cadres après. Les cadres en 1946, c'est les ingénieurs hein, qui, avant-guerre, étaient très impliqués dans la gestion managériale. Mais les ingénieurs de l'après-guerre se distinguent évidemment très fortement du reste des salariés. Ils se reconnaissent même pas eux-mêmes, d'ailleurs, comme salariés. Ce qui va les pousser à se positionner, c'est le système de sécurité sociale. Le système de sécurité sociale, il est pensé pour intégrer tout le monde. Mais les ingénieurs de cette époque-là ne veulent pas rentrer dans le système général de sécurité sociale. Ils préfèrent maintenir les systèmes qu'ils avaient avant-guerre, qui étaient financés par les entreprises, des systèmes en capitalisation, même s'ils se sont totalement effondrés pendant la guerre, les systèmes en capitalisation. Les ingénieurs de cette époque-là, de 46, de 45, 46, auraient souhaité le retour à un système de ce type-là. Mais le gouvernement a bien l'intention d'installer un système généralisé de sécurité sociale. Et d'ailleurs, les ingénieurs vont être appelés à faire grève contre leur intégration dans ce régime. Ça va être l'occasion de naissance, d'ailleurs, de la CGC, la Confédération Générale des Cadres, qui prend son moment d'éclosion contre l'intégration des cadres dans la sécurité sociale. Alors, il va y avoir un compromis, après cette grève, d'ailleurs, assez réussie, il va y avoir un compromis, l'époque est propice au compromis, qui est que alors c'est là qu'on va inventer le fameux plafond de la sécurité sociale, qui signifie que jusqu'à un certain niveau de salaire, les cadres sont comme les autres, c'est-à-dire qu'ils sont intégrés dans le régime général de sécurité sociale. Au-delà de ce plafond, ils ont un régime particulier, c'était une façon à la fois de les mettre à l'intérieur et pas comme les autres dans le système de sécurité sociale. C'est à ce moment-là que va être inventée l'AGIRC, l'Association Générale l'Association de Gestion des Institutions de Retraite Complémentaires des Cadres, et avec un système propre qui rajoute, comme vous le savez, à la retraite, ce qu'on appelle la retraite des cadres, qui est un système complémentaire à la retraite du régime général de sécurité sociale. Et c'est autour de l'émergence de l'AGIRC, d'ailleurs, que va prendre naissance et se développer la CGC. Je vous renvoie à l'ouvrage de référence sur ce sujet, qui est celui de Luc Boltanski, qui s'appelle « Les cadres, la formation d'un groupe social », où il montre très bien que, autour de ce régime propre, à l'intérieur, mais pas tout à fait dedans, de sécurité sociale, va se constituer une identification de ce groupe des cadres, et que va aussi s'enraciner une identité syndicale propre à travers la CGC. Et la CGC, pendant toutes les années suivantes, donc 50 et 60, elle va tenter, ce qui est en même temps une tentative d'auto-justification, de justifier l'existence séparée de ce groupe cadre par rapport au reste du salariat, par rapport à ce bloc ouvrier-employé dont elle recherche évidemment la distinction. Alors la distinction, vous savez que c'est le titre d'un ouvrage majeur de Bourdieu, c'est une question clé à cette époque-là. C'est-à-dire que les cadres, et ça va être la grande bataille des années 60-70, qui est, les cadres sont-ils dans le salariat ou sont-ils une catégorie à part, quelque part entre le salariat et le management. Et toute la rhétorique de la CGC à cette époque, c'est au contraire de dire, nous sommes un groupe tampon. Entre eux, alors il y avait une jolie formule qui était la dictature du prolétariat qui nous menace et la dictature du patronat qui nous écrase. Mais c'était cette idée de troisième voie, si vous voulez, entre la logique salariale et la logique managériale. C'est un peu l'utopie fondatrice de la CGC. Alors je dis l'utopie, à cette époque-là ça marche relativement bien parce que la CGC prend son essor, mais avec la banalisation du groupe cadre, puisque dans ces années-là, l'industrie a besoin de techniciens, techniciens supérieurs, d'ingénieurs. On va ouvrir énormément d'écoles d'ingénieurs, hein. C'est plus seulement les grandes écoles d'antan, il va y avoir des tas d'écoles, et on va avoir une relative banalisation de ce groupe cadre, et surtout des luttes sociales. On va commencer à voir, dans les années 60, il y a une réflexion très intéressante autour de le sens de cette catégorie, quelle était sa place dans les rapports sociaux, dans une alliance avec le reste. Ça part, la réflexion part du conflit chez Merlin-Jerin, qui démarre en 1961. C'est une boîte à 80% cadres et techniciens, Merlin-Jerin, à cette époque. C'est devenu Schneider maintenant, ça existe toujours, mais ça a été absorbé par Schneider. Et ça, il y a une grève très longue qui tient près d'un mois, animée par les ingénieurs, cadres et techniciens. Et à partir de là, ça va inspirer une certaine réflexion, notamment qui va être traduit par la naissance d'un nouveau concept qui est celui de nouvelle classe ouvrière. Alors il y a deux sociologues, Pierre Belleville et Serge Mallet, qui reprennent ce terme. Ils produisent deux bouquins qui portent ce titre d'ailleurs à la même époque, en 1963. Et qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils font une analyse qui est assez novatrice à l'époque, qui est de dire au fond, la classe ouvrière a perdu son potentiel révolutionnaire. Elle commence à avoir autre chose que ses chaînes à perdre dans l'affaire. Elle est intégrée dans la société de consommation et on voit bien qu'il défile au nom de Pompidou des sous, hein, pour caractériser de manière un peu, avec un peu de dédain les mobilisations de l'époque. Et eux disent, au fond, la classe qui le remplace, qui est potentiellement révolutionnaire, c'est celle des cadres. Pourquoi ? Parce que les cadres, ils ont le savoir et la compétence, et le patronat dénie le rôle social du savoir et de la compétence. Et au fond, les cadres sont une catégorie potentiellement révolutionnaire parce qu'ils ont besoin du pouvoir pour faire valoir la maîtrise de leurs compétences, de leurs qualifications, le savoir. Ce sont les sachants, comme on dit. Alors évidemment, c'est un débat intéressant. La CFDT, c'est un débat intéressant dans le champ de la sociologie parce qu'évidemment, cette thèse va être très contestée par des sociologues qui continuent à faire des enquêtes dans le monde ouvrier, qui n'ont pas du tout le même point de vue sur le soi-disant embourgeoisement de la classe ouvrière, mais c'est un débat auquel les syndicats s'intéressent, et notamment la CFDT, qui a plus de facilité dans ce qu'on appelle à l'époque les couches nouvelles salariées, qu'avec les ouvriers, les cols bleus, qui se reconnaissent encore massivement dans la CGT. Et donc, la CFDT va un petit peu surfer sur ces idées-là, et justifier d'ailleurs une relative radicalisation de sa position syndicale à la fin des années 60. Alors c'est un débat, le grand avantage c'est qu'il a été tranché par la réalité, c'est-à-dire qu'en 68 c'est pas un mouvement de cadre, 68 c'est une grève ouvrière, et d'une certaine manière l'hypothèse de Mallet-Belleville sera infirmée par les faits, mais on va continuer quand même à avoir des interrogations permanentes sur ce statut des cadres, et ce qui explique en grande partie le déclin de la CGC, qui fait qu'aujourd'hui c'est une petite organisation marginale, même si elle a pris un point aux élections prud'homales, on reste quand même dans les marges. C'est que dans ces années-là, les cadres se sentent massivement partie du salariat. Même si ils ne se considèrent pas comme les autres salariés, ils ont un statut spécifique, ils ont d'ailleurs, on le voit bien dans les études sociologiques, des modes de consommation, des pratiques de sociabilité, comme on dit, qui leur sont propres, qui ne sont pas les mêmes que les ouvriers. D'ailleurs, on a beau dire la consommation a uniformisé les comportements sociaux, c'est pas vrai, toutes les enquêtes, tous les budgets types de l'époque montrent que, certes, on consomme plus, mais on ne consomme pas pareil, selon qu'on est ouvrier ou cadre, on ne consomme pas les mêmes choses. Et donc, il y a toujours une logique de distinction à l'intérieur de ce groupe salarial, mais, indiscutablement, les cadres ont une conscience de salariés, et ça sera encore plus vrai quand ils commenceront à être touchés par la crise dans les années 80. On dit d'ailleurs, des études de politologues très sérieux, que la gauche a ses chances dans les années 70 parce que le groupe cadre, justement, ne se vit plus sur ce mode unique de la distinction qui le ferait se tenir à distance du salariat. Ils se sentent salariés, pas tout à fait comme les autres, mais des salariés quand même. Donc voilà, c'est pour dire que cette institutionnalisation du salariat, elle se fait dans une recomposition un peu des groupes sociaux, des alliances. Ce bloc un peu ouvrier-employé, ces catégories salariales qui se greffent autour. Alors je parle pas, mais il y a énormément de tensions, de diversification aussi de ce groupe salarié. On pourrait évoquer les catégories qui restent à la périphérie, on peut évoquer les travailleurs immigrés, qui sont très nombreux dans cette période-là, la croissance. Vous savez, ça a été des années d'exode rural, mais en même temps, comme l'exode rural a été très lent, on a continué à avoir besoin d'une main-d'œuvre à l'étranger, et là encore, les patrons sont allés chercher dans les villages des Aurès, etc., tous les travailleurs algériens dont on avait besoin, les Marocains, Tunisiens, etc., plus l'afflux qui continuait des travailleurs italiens pendant très longtemps. Dans les mines, c'est essentiellement les Polonais et les Italiens, donc on a encore qui s'intègrent plus ou moins facilement dans ces configurations. Là, je renvoie aux travaux de Michel Verret et de Gérard Noiriel, hein, qui montrent bien que l'intégration des travailleurs immigrés se fait, elle se fait de manière générationnelle, c'est-à-dire que c'est toujours difficile pour la génération qui arrive. C'est les enfants qui s'intègrent, et ils s'intègrent beaucoup d'ailleurs à cette époque-là à travers les luttes sociales. Et pour avoir fait ce genre d'enquête, quand on va en Lorraine ou dans le Nord, dans les militants de la CGT et de la CFDT, il y a des noms polonais, il y a des noms italiens en pagaille. Hein. Donc on voit bien qu'il y a, et puis aussi sur l'arc méditerranéen, où il y a une abondante immigration italienne encore à cette époque-là, on voit que l'intégration se fait, elle se fait de cette manière-là, transgénérationnelle, disons, mais avec des connotations et une classe ouvrière qui restera toujours assez plurielle dans ses comportements culturels. Hein. Pour ça, Noiriel l'évoque, et Michel Verret, dans un livre qui s'appelle « La culture ouvrière », le montre bien. Il montre qu'en France, il est plus difficile qu'ailleurs, qu'au syndicat, d'être l'incarnation sociologique de la classe ouvrière, parce que celle-ci est en permanence reconduite à reformuler ses identités par le fait de l'immigration. Parce que l'immigration rapportée au, généralement, ça fait peut-être pas des nombres, des proportions de salariés très importantes, mais elle est concentrée. Elle est concentrée dans des zones et on a, par exemple, une communauté italienne qui reste très forte dans l'est de la France, encore aujourd'hui d'ailleurs, avec un festival du film italien à Metz, etc. Il y a des sociabilités propres de ces univers-là. Ils viennent très souvent aussi avec leurs abbés, hein, les Italiens, les Polonais, ils sont plus croyants que les ouvriers français. Donc on a aussi on voit bien qu'on a des patchworks culturels qui font que les syndicats ont beaucoup de mal à se présenter comme une incarnation sociologique d'une classe ouvrière à laquelle on peine à attribuer ce singulier. Quoi. C'est d'ailleurs un phénomène d'affaiblissement du rapport historique entre les syndicats et les ouvriers en France, mais j'y reviendrai dans une autre séance. Je peux citer une phrase de Castel que j'ai sortie, à mon avis elle résume bien. « Même dans cette France profonde qui depuis un siècle et demi freinait l'avènement du progrès, répugnait à l'urbanisation et à l'industrialisation, le salariat et les valeurs associées de l'instruction et de la culture urbaine ont joué aussi un rôle d'attracteur. À preuve, le fait qu'après avoir regardé de haut le salariat et tout fait pour s'en distinguer, ces catégories indépendantes en sont venues à le considérer avec une envie teintée de ressentiment. » Et on voit bien, vers les années 60, à la fin des années 60, les artisans indépendants se laissaient séduire par l'idée de rentrer dans le régime de sécurité sociale. Et vous savez qu'à cette époque-là, on a encore, jusqu'à Giscard, jusqu'en 74, élargi la solidarité nationale à ces catégories-là, qui jusque-là n'étaient absolument pas demandeurs de rentrer dans un régime commun avec les salariés. Je vais quand même songer à me diriger doucement vers ma conclusion. En tout cas, la troisième partie qui est comment ce système-là se met en place. Et cette rupture de l'après-guerre, comment elle s'organise? Elle s'organise essentiellement à travers l'action de l'État. Alors c'est un peu, c'est à la fois, on a une grande continuité française sur le rôle de l'État, qui part de Louis XI, dans l'Ancien Régime, qui passe à travers la Révolution, et donc une tradition étatique assez forte, mais en même temps des traditions libérales au cours du XIXe siècle qui refusaient de considérer l'État comme un acteur de l'économie. Alors l'État est légitime à la libération, à la fois parce qu'il est investi par les forces qui incarnent la résistance, la victoire sur Vichy et sur le fascisme, et il poursuit cette tendance, d'une certaine manière, que j'ai évoquée tout à l'heure, de l'avant-guerre. On a commencé à parler de ces régulations, on dirait aujourd'hui, à l'époque, on ne parle pas dans ces termes-là. Encore une fois, on renoue, il y a une tradition étatique française, donc qui ne rend pas le regard de l'État, l'intervention de l'État, illégitime. Alors, comment s'est opéré ce rôle nouveau et massif de l'État dans le redéploiement social après-guerre? Sur trois fronts, essentiellement. L'instauration de la sécurité sociale, je ne vais pas revenir dessus, on en a parlé, d'une part. D'autre part, l'investissement économique massif dans la reconstruction et la planification de l'économie. Et enfin, par l'organisation de ce qu'on appelle usuellement les relations industrielles. Enfin, c'est « industrial relations », le terme original qu'on traduit souvent par « relations industrielles » ou « relations professionnelles », c'est-à-dire d'organiser le système à travers lequel la confrontation sociale peut entrer dans une ère, disons, moderne, ou sortir de ce qu'on appelle parfois l'ère barbare des relations industrielles. Avoir un système de convention collective, avoir un système de relations sociales ordinaires, et qui ne soit pas uniquement le règlement des grèves, puisque pendant très longtemps, le syndicalisme n'a été considéré qu'à travers cette activité-là, c'est-à-dire un interlocuteur pour mettre fin aux grèves, mais pas un interlocuteur pour négocier de manière régulière des conventions collectives de travail, comme c'était déjà le cas dans la plupart des pays voisins et comparables de la France. J'insiste pas donc sur la sécurité sociale comme instrument de régulation, de stabilisation de la situation des salariés, j'en ai beaucoup parlé. Il faudrait compléter par un autre dispositif tout à fait important qui est mis en place à l'époque, qui est le statut général des fonctionnaires, qui couvre les fonctionnaires, certes, et qui stabilise leur revenu, leur carrière, leur emploi, mais qui va constituer longtemps, Bernard Friot l'a un peu évoqué sans développer la dernière fois, mais très longtemps, le statut de la fonction publique est un horizon de constitution, notamment pour le système des conventions collectives. Et la façon dont est sanctionnée la qualification, la carrière des fonctionnaires va être d'une certaine manière un modèle pour ce qui va se mettre en place dans les conventions collectives, c'est-à-dire la naissance de barèmes, de grilles de qualification, ce qu'on a appelé les grilles parodies, du nom du haut fonctionnaire du ministère du Travail qui avait mis en place toutes ces grilles, donc les modes de reconnaissance et de sanction des qualifications, des règles d'ancienneté, etc., qui sont calées sur la référence au régime prévu par le statut général des fonctionnaires, ainsi d'ailleurs que les régimes spéciaux de retraite, qui à l'époque se maintiennent parce que les régimes de fonctionnaires sont au-dessus du régime général de la sécurité sociale. Il y a eu un débat sur le fait de savoir s'il fallait les intégrer ou pas. Le choix final, ça a été compliqué et il n'a pas été dénué d'ailleurs de toute dimension corporatiste de la part de ceux qui étaient dans des régimes spéciaux, mais enfin après tout... Les corporatismes sont partout, pourquoi pas aussi parmi les travailleurs. Mais surtout, l'idée, c'était qu'ils s'intégreraient progressivement dans le régime de sécurité sociale au fur et à mesure que celui-ci évoluerait. Parce qu'au départ, c'est un système à minima qui a été mis en place, qui était assez compliqué, mais qui avait vocation à couvrir davantage les salariés. Mais comme le régime général est resté relativement de faible ampleur, eh bien les statuts particuliers... Les régimes spéciaux, et il y en avait beaucoup, il y avait 1200 régimes spéciaux de retraite à l'époque, il en reste, après la dernière réforme, et même avant la dernière réforme, il en restait déjà beaucoup moins, mais il y avait un vrai patchwork de régimes de retraite. Tout ça devait se fondre dans un système en progression et l'élastique. Mais enfin, les régimes particuliers de la fonction publique sont restés des modèles, enfin des horizons en tout cas, pour le privé. Ça fait depuis quelques années, on dit plutôt que c'est tellement mauvais dans le privé qu'il est absolument urgent d'aligner la fonction publique sur les dérégulations des régimes de retraite notamment, mais bon, chaque époque a ses conceptions. Alors sur le plan de la place économique de l'État, le deuxième point, bon, je ne vais pas insister beaucoup, il suffit de rappeler quand même qu'à travers les nationalisations que j'évoquais tout à l'heure, en particulier celles du secteur bancaire et assurantiel, l'État contrôlait la totalité du crédit. Dans les industries de base, à cette époque, qui sont fondamentales, évidemment, pour la reconstruction, c'est ce que Marx appelait le secteur 1 de la reproduction élargie du capital, l'État investit plus que le secteur privé. L'investissement public est plus important. Et donc, appuyé sur cette fonction publique, sur ce secteur public très vaste, il contrôlait déjà une grande partie de la masse salariale. Bon, alors au-delà de la période 45-50, parce que jusqu'en 50, les prix et les salaires sont organisés par décret. Mais après 1950, où là, la négociation collective va être délivrée, la création du SMIG en 1950 va lui donner évidemment, va donner à l'État une maîtrise de la politique salariale d'ensemble à travers la détermination du minimum salarial légal, qui va en fait dicter le rythme et la hauteur des négociations qui vont émerger à travers les conventions collectives de branche. Alors, on a donc cette expansion considérable de la notion de la fonction de service public, qui est le pendant de la sécurité sociale en tant que propriété de transfert, que j'évoquais tout à l'heure. C'est une sorte d'affranchissement généralisé de la logique de la marchandise, de la logique privée. Alors, c'est pas le socialisme. C'est pas le socialisme parce que on voit bien qu'il y a une bataille, une lutte pour la répartition du surplus social, comme on dit, j'ai évoqué tout à l'heure, les conflits de la période, c'est pas le socialisme. Mais ça évoque un peu ce que les Allemands appelaient dans les années 20 l'économie organisée. C'est un concept qui est né en Allemagne et dans le champ d'ailleurs du syndicalisme allemand, qui pour eux était l'antichambre du socialisme. C'est l'époque où le syndicalisme allemand adopte une démarche gradualiste et réformiste avec des étapes. Et pour eux, l'économie organisée encadrait l'encadrement de l'investissement, le contrôle public de l'investissement est une étape vers le socialisme. Alors c'est peut-être ça aussi qui a fait que depuis une trentaine d'années, le dos a été tourné à cette économie organisée. Mais puisqu'on est en référence à l'Allemagne, on peut reprendre cette définition de Klaus Hofe, qui est un politologue allemand de l'école de Francfort, comme on dit, mais qui lui est resté un peu plus marxiste que ses maîtres à penser actuels de l'école de Francfort, qui a donné une définition assez pertinente que Castel reprend et que je cite, qui est que de désigner ce système, au fond, qui se met en place après-guerre, un ensemble multifonctionnel et hétérogène d'institutions politiques et administratives dont le but est de gérer les structures de socialisation de l'économie capitaliste. Cette définition me paraît bien parce qu'elle n'oublie pas qu'on est quand même dans l'encadrement d'une société capitaliste, que donc on ne touche pas à la nature profonde des rapports de production, comme on dit, mais qui malgré tout essaie de discipliner les logiques fondamentales en maintenant un certain degré de socialisation. Alors aujourd'hui, on pourrait appeler ça de la régulation, le terme est à la mode, mais enfin, de la régulation conçue comme ça, ce n'est pas exactement ce qu'envisage Sarkozy, voire même Gordon Brown, pour répondre à la crise qui est fondamentalement une faillite de la gestion privée, comme le dit Jean-Paul Fitoussi, c'est le grand thème qui véhicule en ce moment, qui est de dire que la crise, là, c'est le constat de la faillite de la gestion privée du capital. Donc, on a déconsidéré pendant 30 ans la gestion publique, voilà au moins l'occasion de porter un jugement sur la gestion privée. La gestion publique, à cette époque-là, on peut la penser à la lumière de cette définition que propose Klaus Hofe. Alors, dans ces années-là, on voit se développer le système de calcul économique, la comptabilité nationale qui a accompagné ce mouvement, jusqu'à ce que le quatrième plan, qui a été adopté en 1962, prenne officiellement le nom de plan de développement économique et social. On est dans une ère de planification, alors d'encadrement d'institutions, de gestion des structures de socialisation de l'économie capitaliste. On est dans le capitalisme, mais un capitalisme encadré, tenu en laisse ou en lisière, ou comme vous voudrez choisir l'image. D'ailleurs, l'invention du SMIG est d'ailleurs l'indice que le salaire quitte la définition étroite de rétribution de la force de travail. Je ne reviens pas, parce que ça a été le grand thème de Friot la dernière fois, pour ceux qui étaient là, mais on sort de cette logique-là, on rentre dans la logique du barème, de la sanction, de la qualification, et on sort tout à fait de la logique qui oblige quand même à réfléchir sur un certain nombre de définitions marxiennes traditionnelles qui sont quand même associées, parce que c'est l'époque où Marx écrit, à la condition du prolétaire. Dès lors que le salaire sort de cette simple définition de coût de la production et de la reproduction de la force de travail, dès lors que le salaire, à travers l'institution de cette société salariale, on voit le potentiel émancipateur que peut représenter l'extension de la socialisation, alors il faut penser avec des concepts nouveaux, des notions nouvelles qui sont un peu dans l'air du temps. Alors, troisième point, donc ça c'était l'intervention économique de l'État, le troisième point par lequel je vais conclure, c'est cette institutionnalisation de la relation sociale, et du syndicalisme du coup, qui va avec. Alors au niveau national, ça s'est traduit par la mise en place du Conseil économique et social, la participation des syndicats à ce Conseil économique. Il faut dire que l'idée venait d'eux, d'ailleurs, venait de la CGT après la Première Guerre mondiale, ce qu'elle appelait le Conseil national du travail, devenu donc le Conseil économique et social après-guerre. La participation aux commissions du plan, les syndicats sont très participatifs. Alors, c'est pas anodin, c'est sur un mode. Aujourd'hui, on parle de dialogue social volontiers. À l'époque, on pouvait dire que c'était du dialogue, mais c'était un peu plus que ça quand même. C'était pas simplement l'aimable conversation mondaine à laquelle se réduit très souvent le fameux dialogue social. C'était une participation à la production des politiques publiques. À travers les commissions du plan, on débattait des moyens d'intervention économique de l'État, du sens et du contenu des politiques publiques. C'était pas une association simplement formel. À un autre niveau, on va voir émerger, au niveau de l'entreprise, les comités d'entreprise, donc qui sont la poursuite des comités d'organisation qui avaient été mis en place par Vichy. Enfin, on reprend la structure, on lui donne un autre contenu, mais ça va tout de même avoir un effet d'intégration des syndicats dans la vie de l'entreprise. Alors, les comités d'entreprise en 1945-1946, ils n'ont pas un rôle énorme. Ils s'occupent de la bibliothèque et de l'arbre de Noël. Mais progressivement, avec le temps, ils vont acquérir des capacités d'intervention, d'interpellation de la direction, le droit d'expertise, le droit d'aller voir les comptes de l'entreprise, de se voir consulter sur un plan, les plans de licenciement, joliment appelés plans de sauvegarde de l'emploi, etc. Enfin bon, donc on est dans une dynamique d'assignation du syndicat à la logique de l'entreprise. Et entre les deux, entre ce niveau national et ce niveau de l'entreprise, il y a le fameux démarrage des conventions collectives. J'ai déjà évoqué dans les séances précédentes les difficultés qu'on a eues en France à accoucher d'un système de conventions collectives organisé au niveau des branches. Première tentative de 1919, qui n'est pas allée très loin, et celle de 1936, qui a sombré dans 1938, disons, après la grève générale échouée de 1938. Donc se met en place ce système qui va finalement, d'une certaine manière, intégrer les syndicats dans des procédures ordinaires de négociation sociale. Alors on reviendra plus en détail sur ces dispositifs. Je pense d'ailleurs qu'on pourra faire une séance, si l'idée paraît pas saugrenue, sur évaluer un petit peu le nouveau dispositif de reconnaissance de représentativité des salariés, des syndicats, par exemple, qui introduit une rupture majeure par rapport aux systèmes qui ont été introduits à cette époque-là. C'est une rupture avec le système qui se met en place en 1950. Et ça serait, on peut faire assez facilement une discussion là-dessus sur pourquoi ce système-là en 50, quels effets il a produit dans le champ du syndicalisme et pourquoi il fallait le changer. Après, on verra ce sur quoi peut déboucher la fameuse position commune et la loi du mois d'août dernier, mais en tout cas, il y a opportunité à revenir sur le mode de la mise en place de ce système de confrontation sociale. Alors, je m'en tiens là pour ce soir, mais en soulignant quand même, en insistant sur cette rupture qu'a représentée dans la société l'implication massive de l'État. L'État social, à travers la sécurité sociale, l'État organisateur économique de premier plan, et État chef d'orchestre des relations sociales. Un État donc qui est central et qui ne lâche aucune de ses attributions. Il a un poids dans les relations industrielles, dans les conventions collectives qui distinguent un petit peu la France de ses voisins, d'ailleurs. Cette période a été placée très souvent sous le signe de ce qu'on a appelé le consensus keynésien. La figure de Keynes, dont on parle beaucoup ces temps-ci, domine, parce qu'évidemment, la régulation économique, la place de l'État à cette époque, emprunte beaucoup à la théorie générale, enfin, aux pratiques qui sont dérivées de la théorie de Keynes, sinon les applications pures et simples de Keynes, c'est un autre débat, mais où on l'a appelé aussi keynésiano-fordiste. Enfin, il signe ce qu'on appelle la grande transformation du monde qui affecte la pensée de la société et des règles qui doivent présider à son fonctionnement. Alors, la grande transformation, ça fait allusion à un ouvrage de la période dont l'auteur est Karl Polanyi. Le livre s'appelle « La grande transformation ». Il est écrit à cette époque-là. C'est un livre majeur, il est vraiment passionnant. Il explique avec une grande force d'argumentation et de conviction pourquoi les idées libérales d'organisation économique de la société ont disparu à cette époque-là et pourquoi elles ne réapparaîtront jamais. Pour lui, la grande crise et la guerre ont scellé les méfaits de la pensée libérale. Alors évidemment, on a cru à cette prophétie de Polanyi pendant longtemps, mais malheureusement, quel que soit le poids de l'histoire là-dedans, il n'a pas eu totalement raison, ce qui montre, comme cette phrase de Hegel que j'aime bien, qui est de dire que s'il y a une leçon à retenir de l'histoire, c'est que personne ne retient les leçons de l'histoire.